Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour et bienvenue dans ce 10-10 au lendemain de la fête des femmes. Nous sommes le 9 mars. Hier, c'était le 8. Bon, c'est notre fête tous les jours. Enfin, il le faudrait en tout cas. Avec donc à l'antenne Christine Masduro, qui est notre invitée du jour. On va en parler dans quelques instants. Elle va nous dire qui elle est et ce qu'elle fait. Et puis avec Léonie, donc ces trois nanas.
Oui.
Aussi bien à la technique qu'autour des micros. Christine, bonjour.
Bonjour.
Alors Christine, vous êtes plasticienne. Vous avez un travail personnel, des projets personnels. Mais nous allons voir que là, vous avez travaillé sur quelque chose de collectif. Mais on en saura plus dans quelques instants. Votre pratique vient d'où, Christine ?
En fait, moi, j'ai commencé la broderie très jeune, hein, parce que j'étais en vacances dans le Limousin, une zone rurale très profonde. Où
peu de télé, peu de copains.
Exactement, il n'y avait pas grand-chose à faire.
Sans billets fermes.
Du vélo, voilà. Et donc, mes grands-mères, ma tante, brodaient. Donc, les après-midi... On allait au champ de foire pour broder et moi j'aimais bien.
Au champ de foire, ça veut dire que toutes les femmes du village venaient broder
ou pas juste toutes les femmes, mais justement, il y avait trois femmes et parfois une autre du village qui pouvait se joindre, une ou deux voisines. Bon, voilà, il y avait un groupe de quatre ou cinq femmes, beaucoup plus âgées que moi. Moi j'étais jeune, donc j'étais entre faire des pirouettes sur les barres du champ de foire et puis faire du fil avec mes grands-mères et j'adorais.
Alors, faire du fil, ça veut dire que vous fabriquiez le fil, non?
Non, c'est une expression à moi, oui. C'est-à-dire faire avec du fil.
D'accord. Voilà, donc, avez commencé comme ça, petite, puis après, cette pratique vous a un petit peu quittée et vous y êtes revenue.
Complètement, elle m'a complètement quittée parce qu'après, j'ai toujours été passionnée par ce que j'entreprenais. Après, j'ai fait des études de kinésithérapie, d'ostéopathie, j'étais à fond sur ces études et du coup... j'avais laissé tomber ce travail manuel, on va dire. Mais j'ai toujours su que j'y reviendrais un jour parce que j'aimais beaucoup. Je m'étais toujours dit que de toute façon, un jour, je ferais de la broderie ou de l'appliquer sur tissu.
Quand vous êtes revenue vers le fil, vous aviez déjà engagé une carrière d'artiste. Ou est-ce que vous êtes revenue sur le fil pour... devenir une artiste?
Je suis revenue sur le fil pour entamer ma pratique artistique.
D'accord, on va dire ça comme ça.
Oui, parce qu'en fait, j'ai choisi ce médium. J'ai commencé ma pratique artistique quand j'avais des choses à dire et que j'avais envie de sortir de la relation duelle du cabinet. Parce qu'au cabinet, en tant qu'analyste, on est dans une position de silence, de retrait, d'écoute. Et au bout d'années, c'est vrai que j'ai eu envie, moi aussi, de prendre la parole. J'avais des choses à dire. Et puis, c'était une manière aussi de donner forme à toute cette théorie qu'on engrange. Parce que la psychanalyse, ça implique aussi beaucoup de lectures, de travail en solitaire et en groupe. Et voilà, j'avais eu envie, à un moment donné, c'est devenu nécessaire de sortir du cabinet pour exprimer, par ma sensibilité... Et là, quoi d'autre que le fil, puisque j'ai pas jamais
peint,
j'ai pas fait d'école.
Donc on avait fait un petit saut d'ailleurs entre la kinésithérapie et la psychanalyse, mais bon, oui. On a compris que c'était des étapes de votre vie.
Absolument.
Et que vous êtes toujours psychanalyste.
Absolument.
Et que vous êtes maintenant artiste à tel point que vous exposez régulièrement dans la région de l'Hérault, mais même au-delà, et que là, vous avez une grosse exposition qui se tiendra donc jusqu'au 5 avril, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Mais c'est une exposition collective. Alors cette exposition collective, elle s'est faite entre vous, des femmes qui étaient là, mais qui étaient des femmes qui étaient en relation avec une association dont vous pourriez peut-être nous dire un mot.
En fait, l'association, c'est moi qui ai créé cette association.
D'accord.
Justement pour recevoir des personnes en situation d'exil. Et je me suis tournée vers différentes associations, justement, qui reçoivent, qui accueillent, des spécialistes de l'accueil des personnes en situation de migration. Donc, les CADA, centres d'accueil de demandeurs d'asile, je me suis tournée vers un CADA du quartier, la CADA Elisa, là, de l'autre côté du Faubourg Figrolles. Voilà, je me suis tournée vers la boutique d'écriture aussi,
oui.
Vers différentes associations. En ce moment, je travaille avec l'association Forum Réfugiés, un programme qui s'appelle le programme Saphir, qui est justement pour la réinsertion des femmes. Donc, selon les associations vers lesquelles je me suis tournée, bah, j'ai eu en face de moi des personnes dans différentes étapes de leur arrivée,
intégration.
De leur intégration, absolument.
Alors, je me pose la question de savoir, donc vous avez travaillé à combien de femmes au total sur ce projet? On va parler du projet ensuite. Vous étiez combien au départ? Je pense que c'est un chiffre qui a dû fluctuer au fur et à mesure du
absolument.
Projet.
Absolument. En fait, moi, dans mon cabinet, je peux recevoir une quinzaine de personnes par atelier. Mais ces personnes s'engagent plus ou moins sur une année, les associations. Et puis, on renouvelle l'année suivante. Donc, l'année suivante, je pars avec un nouveau groupe. Donc, vous voyez, ça fait 4 ans, on va dire. 4 fois 15, je ne suis pas très bonne en...
En fait, c'était, 4 fois 15, ça fait 30, ça fait 60.
Voilà.
Si je ne m'abuse. Donc, du coup, comment vous les avez choisies? Parce que c'est elles qui sont venues vers vous. C'est vous qui avez dit, écoutez, moi, je vais prendre 3 femmes de cette association-là, 3 d'une autre. 3... Comment ça s'est fait?
Pas du tout. J'aurais été bien en difficulté si j'avais dû faire un choix. Mais en fait, c'est l'association elle-même qui choisit donc les différents cadavres. Forum Réfugiés me dit, parce que je dois dire que mon atelier a beaucoup de succès, il y a beaucoup de femmes qui voudraient venir, et donc il n'y a pas autant de place que...
Oui.
Donc c'est l'association Forum Réfugiés qui gère un petit peu ça, parce que l'association Forum Réfugiés dirige les femmes sur différents ateliers. Il y a des ateliers de théâtre, il y a des ateliers de boxe, il y a des ateliers de danse, des ateliers d'apprentissage de la langue.
Et donc, en fonction de ce qu'elles désirent, elles...
Voilà, en fonction de leur personnalité,
voilà,
je pense
il y a un nombre de cartes qui sont sur la table, elles choisissent la carte qui leur convient
exactement.
Le mieux. Exactement. Donc, vous vous êtes retrouvée, on vient de le dire, à peu près avec une soixantaine de femmes sur 4 ans. Vous avez travaillé avec elles. Et le projet, au départ, se présentait comment? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec elles?
Alors, ce projet, il est né après un précédent projet que j'avais fait, mais qui était seul, qui était un projet qui s'appelait Baltimore au lever du jour, en rapport avec une conférence que Lacan avait donnée à Baltimore sur la question de l'inconscient est structuré comme un langage.
Et donc,
j'avais souhaité mettre en lumière l'inconscient, c'est-à-dire les rêves. La voie royale de l'inconscient, c'est les rêves. Et j'avais brodé des tas de rêves sur des oreillers, des draps, des supports sur lesquels
on dort.
On dort, voilà. Mais je me suis dit, en fait, on dort pas forcément dans un lit bien fait.
Non, moi je dors au cinéma, par exemple.
Voilà, génial. On peut dormir n'importe où. On dort sur un banc dans le métro, on dort sous un platane ou un cerisier
dans
l'été.
Un hamac.
Voilà. Donc je me suis dit, la prochaine fois, plutôt que de prendre des rêves piochés dans la littérature, je vais m'adresser à des personnes marginalisées et je vais leur demander à quoi elles rêvent. Et voilà, et je vais faire un projet plus ouvert sur le collectif.
Comment ça s'est passé? Parce que ce sont des femmes qui ne pratiquent pas toute notre langue suffisamment, même pour comprendre une indication.
Absolument. Donc on a fait comme on pouvait. avec Google Traduction, n'est-ce pas? Et puis, il y a des femmes qui sont plus ou moins dans l'avancement de l'apprentissage de la langue. Donc, des fois, qui traduisent pour la voisine, ou même si c'est en arabe, même si ce n'est pas le même pays, mais qui se comprennent. On a bricolé. Il y a plusieurs personnes, des traducteurs, traductrices qui m'ont proposé...
De venir,
mais bon, en fait, mon association n'est pas suffisamment dotée pour pouvoir embaucher une traductrice. Donc,
j'imagine.
On a bricolé comme ça.
Et ça a dû donner des situations assez cocasses.
Mais oui,
et drôles,
oui,
et qui ont créé des liens.
Mais qui ont créé des liens, absolument.
Tout à fait.
Et c'est ça quand même un des objets.
Ah, on va déjà faire une pause musicale. Vous voyez que ça passe très très vite, Christine Mazzuro. On fait une pause musicale, on va écouter, si vous le voulez bien, Chavela Vargas, No Volver. Et on reviendra ensuite sur cette exposition. On va en donner le titre tout de suite, Là où commence la mue. Mais pour l'instant, on donne la parole, ou plutôt la voix, à Chavela Vargas.
Cuando lejos te encuentres de mí. Cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Nous revoilà dans ce 10-10 avec Christine Masduro, qui est notre invitée aujourd'hui. Elle est à la... Comment dire, j'allais dire la tête, non, c'est pas joli. À l'initiative d'une très belle expo qui se déroule jusqu'au 5 avril à l'espace Bagouet, qui vient d'être refait. Donc c'est quand même un lieu tout beau, tout neuf. Hein.
Magnifique.
Rien à dire.
Oui, je suis très heureuse de pouvoir présenter mon travail dans un si bel espace.
C'est un lieu mythique, on va dire, de Montpellier.
Oui. Hein.
Donc vous êtes notre invitée, c'est toujours Léonie qui est à la technique et je vous remercie, vous les auditeurs et auditrices, puisque nous sommes le 9 mars, d'être à l'écoute et de nous être fidèles. Donc on parlait de cette fameuse exposition qui est une exposition collective qui s'appelle « Là où commence la MU ». Et donc cette exposition collective, on a dit qu'il y avait une quarantaine finalement, une soixantaine de femmes, c'est ce qu'on a dit, qui avaient travaillé sur ce projet pendant 4 ans. Quelles sont les origines? Parce qu'elles étaient toutes immigrées, elles venaient toutes de régions différentes. Qu'est-ce que vous aviez comme nationalité différente?
Oh, des pays de différents pays, que ce soit le Venezuela, la Colombie, l'Amérique du Sud, mais aussi...
L'Afghanistan
Oui, de nombreuses femmes qui viennent d'Afghanistan,
L'Ukraine.
Parce que vous connaissez le sort des femmes,
oui,
en Afghanistan. Voilà, beaucoup de femmes aussi qui venaient du Tchad, du Soudan.
Oui.
Il y a vraiment aussi, c'est terrible hein, ce qui se passe au Soudan. Donc...
Tout à fait, on en parle peu, mais
oui,
c'est vrai que
des guerres.
Malheureusement, l'actualité est focalisée sur quelques conflits absolument énormes qui risquent de nous secouer, nous. Donc du coup, ils sont d'autant plus intéressants.
Oui.
Mais le Soudan, non, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qu'on oublie.
On en parle peu et pourtant, ben, voilà, c'est terrible ce qui s'y passe.
Donc, le projet... Faire une exposition collective de ce travail qui a duré 4 ans. Mais quand je dis ce travail, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi ce travail?
Alors, ce travail, donc, moi, j'avais donc, l'idée d'origine qui était effectivement que ces femmes puissent écrire leur histoire de l'exil. Éventuellement, pourquoi elles avaient quitté leur pays, ce qu'elles attendaient, ce qu'elles imaginaient en arrivant en France. Voilà, mais c'était un petit peu ambitieux parce que ces femmes sont dans telle souffrance en fait qu'elles sont pas forcément disponibles pour des récits très personnels. Donc des fois,
et puis c'est peut-être pas dans leur culture non plus.
Absolument.
Il y a peut-être des cultures où effectivement on tait sa douleur, on tait ce qu'on est sous peine d'être pénalisé, puni, ou tout simplement parce que ça n'est pas dans la culture.
Exactement.
Vous psychanalyste, vous êtes effectivement pour qu'on dise nos entraves.
Bien sûr, je pense à Adébola.
Et ça ne fonctionne pas comme ça partout.
Bien sûr, et oui, Adébola qui a quitté son pays parce qu'elle est homosexuelle et qu'au Libéria, elle est passible de la peine de mort. Donc, en disant tout ça, elle disait la douleur que ça avait été de quitter son pays, de quitter sa famille, ses amis et d'arriver en France. Et elle écrivait son texte, justement. Elle était très très émue et elle disait, et c'est vrai que ça nous semble incroyable en France alors qu'on peut vivre sa sexualité ouvertement, Bah, c'est pas le cas partout.
De plus en plus, parce qu'il y a encore quand même quelques petits soucis, certaines.
Bien sûr, bien
sûr. Ne le cachons pas.
Oui, 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 oui. Mais bon, bref, malgré tout.
C'est pas la même chose dans certains pays africains en particulier ou musulmans.
Absolument. Il y a des femmes qui ont parlé justement des violences qui leur ont été faites, les problèmes d'excision, les problèmes. Pourquoi est-ce qu'elles ont quitté leur pays pour que leurs filles ne subissent pas les mêmes violences, etc. Voilà. Donc.
Essentiellement des femmes seules.
Des femmes qui sont seules, mais
avec
des enfants aussi,
mais avec des compagnons,
qui viennent des fois, voilà,
en
couple, qui viennent rejoindre leur mari. Voilà, donc il y a toutes les configurations familiales. Des fois, elles viennent d'ailleurs accompagnées de leurs enfants quand les enfants sont malades. Donc, j'ai rebrodé d'ailleurs parfois des dessins que les enfants ont fait.
Avaient fait. Mmh. Donc, ça commence par un écrit où on parle, où on raconte un peu
voilà.
Ce qui s'est passé.
Absolument. L'écrit, ça vient quand même en dernier lieu parce qu'au départ, elles apprennent. Pour celles qui ne savent pas encore broder. Et des fois, elles ne sont pas prêtes à écrire un texte, donc elles préfèrent broder une fleur, un cœur, voilà, des choses.
Et donc, l'histoire, c'était d'exposer des grands travaux, parce qu'il y en a qui sont quand même très considérables, et qui sont effectivement des travaux, j'allais dire, d'aiguilles, parce qu'il n'y a pas que de la broderie, il y a des applications, il y a des choses comme ça, où elles racontent d'une certaine façon leur histoire et un peu ce qu'elles en concluent à l'instant où elles font où elles préparent cette exposition. Moi, j'ai une image qui me reste, c'est cette bouche rouge cousue.
Oui.
C'est rien, c'est une image de grand publiciste, j'allais dire. C'est-à-dire que ça se comprend tout de suite.
C'est une bouche de femme
et c'est une bouche cousue par des fils donc à qui on interdit de parler. C'est vraiment ce qu'on peut appeler l'image choc.
Oui, oui, oui. Alors ça, ce sont des pièces qui sont des pièces personnelles qui viennent en écho à cette œuvre collective parce qu'effectivement, ça vient dire comment parfois ces femmes ont été empêchées de parler. C'est une des raisons pour lesquelles elles quittent leur pays. En Afghanistan, elles ne peuvent pas ni aller dans les facultés, ni se rencontrer dans la rue. Donc, bouche cousue, oui. L'impossibilité de dire, l'impossibilité d'échanger. Donc, il y a ces trois bouches, une qui dit l'amour, une qui est simplement ouverte. Voilà, donc, entre... Bah, c'est la liberté d'expression.
Tout à fait, la liberté de parler. Et quand on est femme, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Ce n'est pas simple pour les hommes, mais ce n'est pas simple pour les femmes dans certains cas.
Tout à fait.
Ça dit plus que ça, parce qu'en réalité, ce travail, ce que l'on voit, c'est le résultat de ces ateliers. Mais ces ateliers, c'est autre chose. Ce sont des espaces de dialogue, ce sont des espaces de confidence. Et j'allais dire, ce sont des espaces, ça va vous plaire, la psychanalyste que vous êtes va être satisfaite, de réparation.
Absolument, absolument. J'ai la prétention de penser que ces espaces de rencontre, de se frotter comme ça à la culture de l'autre, et dans ce temps si particulier qu'implique la broderie, cette lenteur...
C'est lent, le temps compte beaucoup.
On est dans l'ici, la concentration de l'ouvrage, et en même temps dans ses pensées. Et on peut aller et venir entre son cheminement personnel... La discussion avec la voisine d'à côté, reprendre l'ouvrage, et c'est dans ce va-et-vient que se tisse un lieu à soi, un espace à soi. C'est pas la chambre à soi, mais ça a à voir avec...
Et à soi, S-O-I-E, S-O-I-E, S-O-I sans E.
Oui, oui, oui. Oui, on brode avec
la
du fil de soie, on brode avec du fil de coton, avec du fil de lin, mais c'est un lieu pour les femmes où elles se sentent... Elles se sentent en confiance et c'est très important pour elles. C'est ce qu'elles disent, en tout cas. Elles aiment, même si elles sont tellement débordées par les choses à faire, un quotidien, les enfants,
une charge mentale
très, très lourde, les papiers administratifs. Elles ont beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Et dans un pays qui n'est pas le leur,
mais
avec des pratiques qui ne sont pas les leurs, une langue qu'elles ne connaissent
absolument.
Pas forcément bien. Et quand même, toujours cet espace de protection vis-à-vis de la famille, des enfants. Il faut que ça tourne, tout ça, quand même, malgré
absolument,
tout.
Absolument, absolument. On a fait, pour accompagner ça aussi, une bande-son qui vient recueillir leurs témoignages. Cette bande-son, elle n'a pu se faire qu'effectivement après 4 ans, parce qu'elles sont complètement en confiance, elles n'ont plus de crainte. Elles savent qu'elles peuvent parler librement. Et puis, entre-temps, elles ont appris à mieux parler le français. Et donc, du coup, bah, elles pouvaient témoigner de leur histoire. Et c'est très touchant.
C'était très émouvant. Et on va revenir là-dessus quand on va parler du vernissage, qui avait été un grand moment de cette exposition. Juste, je voudrais parler juste du temps de l'expo, c'est-à-dire on brode à plat. Et puis, à un moment donné, on lève l'œuvre contre un mur. Et encore une fois, j'ai dit qu'il y avait des œuvres monumentales. Et là, j'imagine leur surprise quand elles ont vu, d'abord, tout ce qu'elles avaient mis d'elles-mêmes s'afficher.
Absolument.
Et quand je dis s'afficher, vraiment comme une affiche sur les murs.
Et oui, ça c'était un grand moment. Hein, je pense que, comme elles ne se projettent pas forcément sur le très long terme, elles avaient du mal à imaginer aussi l'objet fini. Donc elles brodaient leur propre partition sans savoir comment ça allait se positionner par rapport aux pièces voisines. Voilà, de voir aussi leurs portraits qu'elles ont brodés quand on a fait ce travail sur les portraits cartes, leurs portraits retravaillés par leur territoire et brodés, tout ça, bah, c'est vrai que c'était un travail très minutieux, très patient, mais quand elles ont vu ça, elles adorent, elles prennent chacune une photo de leur propre portrait carte dans leur sac qu'elles emportent avec elles partout. C'est joli.
C'est très beau ça. Christine, ça va vite hein, cette émission, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps, ça fait déjà 9 minutes que nous parlons et nous allons faire une pause musicale parce qu'il faut laisser aussi à nos auditeurs et auditrices le temps de respirer. Césaria Évora, on a choisi donc des femmes, évidemment, oui. Deux cultures oui. Tout à fait différentes.
Oui, encore des femmes.
Voilà, qui correspondent donc effectivement à ce principe de cette exposition multiculturelle, j'allais dire, avec des femmes aux portraits très très variés. Mais avec des talents divers, mais affirmés, grâce à vous, parce que vous avez fait émerger tout ça. Vous avez semé la petite graine, mais elles ont travaillé.
J'espère, c'est j'espère une œuvre que toute collective. Cette écoute permet...
Justement... Ça leur permet probablement d'avancer en elles-mêmes, si je puis dire. Donc Césaria Évora, Sodade, c'est sûrement son morceau le plus connu, mais il est toujours agréable à écouter. Et on remercie Léonie, qui est à la technique aujourd'hui. C'est que des filles aujourd'hui, pour ce 10-10.
Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inflar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inflar. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inflar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inflar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inflar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inflar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inflar.
Césaria Évora, Sodade, c'est dans le 10-10 de ce matin. Nous parlons entre femmes, pour les femmes, mais aussi aux hommes. Il n'y a pas de raison, bien au contraire. C'est l'occasion de nous surprendre dans nos pensées et de voir que nous avons aussi une vie, j'allais dire, intime et maritime entre femmes. Et c'était le cas de cet atelier. Hein. Une soixantaine de femmes sont passées, j'allais dire, dans votre atelier pour faire un travail commun qui est exposé aujourd'hui à l'espace Bagouet et ce jusqu'au 5 avril. Je vous redonnerai tout ça à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on revienne sur cette expo, parce que maintenant, elle a quand même un certain temps. Elle a commencé au mois de février, me semble-t-il.
Le 10 février.
Donc oui. Voilà, elle a quand même déjà un peu plus d'un mois et demi. Donc, quels sont les retours? Que voyez-vous? C'est très facile d'accès. Hein, les messages sont immédiats. On n'a pas besoin de se creuser la tête, mais ils sont très beaux, très bien exprimés par ce travail collectif. Quel est le retour des gens qui signent le livre d'or
Je dois dire que je suis très surprise par d'abord le nombre de personnes qui laissent un mot dans ce livre. Toujours très élogieux, toujours très encourageant. Les gens sont
avec
très
touchés.
Avec une
bonne compréhension de ce que vous avez voulu faire.
Absolument, très touchés par ce travail.
C'est formidable, merci, bravo encore. Mais bon, c'est pas ça. Je pense qu'il y a des commentaires
plus précis sur ce travail avec les femmes, sur cet engagement politique, parce que il y a quelque chose quand même d'un véritable engagement politique à travers le fil. C'est pas seulement des petits ouvrages de dames dont il s'agit, mais il s'agit aussi d'exprimer une sensibilité, dire pourquoi on a quitté son pays, parce que en Turquie, Erdogan, il vous met en prison si vous ne pensez pas comme lui. Voilà, il y a des femmes qui peuvent dire ça.
Beaucoup de pays, malheureusement, c'est de plus
voilà.
en plus.
Et donc, c'est vrai que j'ai recueilli des très, très bons retours de cette exposition.
Et vous n'avez
des associations, d'associations d'assistantes maternelles, toutes sortes de gens qui me demandent et de faire des visites privées et de...
Alors, il y a des visites guidées, hein, effectivement, du lieu, mais on en parlera tout à l'heure. Vous n'avez jamais eu l'idée d'en faire, finalement, un ouvrage, c'est-à-dire au fil des événements, des épisodes de cette aventure, de l'écrire, avec effectivement les représentations des femmes qui travaillent, mais aussi de ce qu'elles ont produit.
Peut-être, à l'avenir, ça serait une idée. J'avais pensé aussi faire laisser trace, faire une œuvre qui viendrait dire tout le temps. De partage des femmes, les personnes qui sont venues, tel jour, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a avancé, donner forme à tout cet espace-temps. Ça aurait été chouette, mais vous voyez, je manque de temps parce que...
C'est toujours l'histoire du temps. Donc le retour du public est plutôt chaleureux, on va dire. Et chez les femmes elles-mêmes, qu'est-ce que ça a changé? Alors moi, j'étais au vernissage, c'était un jour, il pleuvait à verse, on était très bien dans cet espace, il faisait bon, il faisait chaud, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, donc vous avez fait un certain nombre de remerciements, les gens de la mairie, les élus ont parlé, et puis à un moment donné, il y a une jeune femme, elles étaient toutes derrière vous, enfin il y en avait un certain nombre derrière vous, pratiquement une quinzaine de femmes qui étaient derrière vous, parmi celles qui ont participé à cet atelier. Et puis à un moment donné, il y a une très jolie fille avec une toque en fourrure qui a dit « je voudrais dire quelque chose ». Je ne parle pas bien français, mais alors sur son téléphone, elle avait écrit son petit discours et elle nous a dit combien sa maman, qui avait participé à cet atelier, s'en était trouvée mieux.
Oui, absolument.
C'était très touchant.
Elle était absolument touchante parce que Palwasha, donc, est arrivée d'Afghanistan avec sa mère.
C'est ça que j'étais afghan.
Elle avait une fonction de porter la parole des femmes et revendiquer le droit des femmes dans l'espace public en Afghanistan. Inutile de vous dire que quand les talibans sont arrivés au pouvoir, elle a été poursuivie, elle a subi plusieurs tentatives d'enlèvement et donc elle est venue avec le dernier avion avec sa mère. Et sa mère brodait, donc c'est avec elle que j'ai brodé essentiellement la grande carte du monde, revisitée par l'ensemble des archipels des unes et des autres. Et cette Palwasha, elle ne m'avait pas dit qu'elle voulait prendre la parole, mais c'était très touchant de l'entendre remercier et puis témoigner des bienfaits.
Essentiellement au nom de sa mère.
Au nom de sa mère qui ne parle pas. Avec elle, on parle broderie. C'est-à-dire...
Elle parle un petit peu français ou pas du tout, sa maman?
Non, pas du tout.
Donc c'est Palwasha qui faisait le...
C'est Palwasha qui fait le lien. Et j'utilise Google Traduction pour traduire en pachto quand c'est nécessaire. Mais sinon, on communique beaucoup, on s'apprécie beaucoup toutes les deux et on a beaucoup travaillé ensemble parce que contrairement à des femmes qui ont des contraintes. Elle, sa fille, elle a 26 ans, elle est déjà élevée, elle va pas...
Elle n'est plus à la maternelle ni chez la nounou.
Elle n'a pas... Voilà. Donc, sa maman, Anissa, est très disponible de son temps. Et donc, elle aime beaucoup venir à l'atelier.
Alors, c'est vrai que cette jeune femme, c'est aussi une forme d'espoir, parce que elle va vivre en France qu'elle n'aura jamais pu vivre en Afghanistan. Je ne vois pas comment les choses pourraient changer dans l'immédiat. Et probablement, par son intelligence, sa beauté, etc., elle réussira à faire quelque chose. Mais elle est quand même très engagée au fond d'elle, parce qu'elle a connu en Afghanistan.
Absolument. Ah oui, oui,
et
oui.
Donc ça, c'est vrai que toutes les petites graines sont là pour faire de cette jeune femme un vrai personnage.
Absolument. Et j'espère aussi qu'elle va trouver. Elle a repris des cours à la fac. Et, vous voyez, même si elle disait qu'elle... Moi, je trouvais qu'elle s'exprimait très bien.
Elle s'est bien exprimée. Mais ça, c'était peut-être une forme de coquetterie, déjà.
Oui, oui, oui. Oui.
Je ne sais pas parler, mais quand même, je voudrais vous dire quelques mots.
Oui, j'ai trouvé ça adorable.
Et vous, votre retour d'expérience, parce que c'est vous qui avez été, j'allais dire, le nœud central de cette expérience, cette grande toile d'araignée, en fait.
Ben, écoutez, donc moi, j'ai dû mettre à disposition à la fois mon espace et puis aussi mon espace psychique pour accueillir ces femmes. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer toutes ces personnes et...
Et on sort comment de là ?
Et on sort comment de là ? Ben, on en sort enrichi par toutes ces cultures et on en sort aussi parfois épuisé parce qu'il y a aussi tous les à côté. Hein, parce que ces femmes, elles sont très en difficulté. Des fois, elles ont besoin de l'aide d'un avocat. Vous voyez, dans mon discours, j'ai remercié une avocate spécialiste des droits des personnes en situation d'exil qui m'a aidée pour obtenir des papiers, annuler des OQTF. Enfin, vous voyez, il y a aussi tout ce travail. Donc, c'est très prenant psychiquement.
Et puis même, vous avez eu peut-être un sentiment d'envahissement de l'atelier, parce que c'était à chaque fois 15, 16 personnes qui arrivaient chez vous.
Qui viennent.
Et puis, une sorte d'envahissement psychique et mental.
Absolument.
C'est-à-dire que ça prend la tête quand même.
Ça prend énormément, énormément. Mais bon, voilà, donc il y a les deux. Il y a à la fois l'enrichissement lié de ce rapport à l'altérité, la plus grande altérité, comme ça, de
se fréquenter. Et puis, il y a peut-être quand même la satisfaction.
Et en même temps, parce le travail qu'on a réussi à produire, au final.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Quand vous avez commencé, vous avez dit « on va faire ça voilà. ».
Hein, qui a finalement pris forme. Ce que j'avais pensé, tous ces archipels, ces grandes maisons, elles sont venues broder leurs partitions qu'on a ensuite cousu sur ces grandes maisons. Enfin, tout ça, je trouve très beau. Aussi,
oui, non, mais c'est très beau. C'est très beau. Et c'est ce que je dis et j'insiste pour les gens qui nous écoutent. C'est très facile d'accès. Même les enfants. C'est d'ailleurs sujet à débat avec des enfants parce que c'est compréhensible immédiatement. Et je pense que les parents et les enfants peuvent parler de ça. Quoi, parce
l'équipe de médiation me disait qu'il y avait des enfants là, qui semblaient rester médusés devant, à regarder.
Ça ne m'étonne pas.
Et une des personnes lui a dit... ça te plaît beaucoup elle lui a dit, ma maman, elle a fait comme cette dame. Elle est partie aussi.
Et oui, donc ça renvoie à des histoires personnelles.
Des histoires personnelles.
On va rappeler quand même que cette exposition, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut quand même le redire, dure jusqu'au 5 avril. Donc vous avez le temps d'aller la voir. On a voulu la diffuser aujourd'hui par rapport effectivement au 8 mars, mais c'est jusqu'au 5 avril. Donc vous avez encore un mois pour aller la voir, ou presque à quelque chose près. C'est gratuit. Tous les jours, de 10h à 18h, donc ne vous préoccupez pas d'argent, vous passez devant, arrêtez-vous, passez-y 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 2 heures, faites-vous plaisir, regardez ce monde de ces femmes que vous ne connaissez pas, regardez comment ces femmes qui sont parties de chez elles, qui sont dans l'isolement souvent, parfois dans la solitude, ont pu effectivement trouver leur place dans cet atelier. Et puis il y a des visites guidées qui sont gratuites aussi, le samedi et le dimanche à 15h, donc si vous voulez en savoir plus sur chacune de ces œuvres, profitez-en un samedi et un dimanche en famille à 15h. Christine, je vous remercie beaucoup. On aurait pu parler
merci.
Des heures.
Merci
des
à
heures,
vous, Maria. Hein. Merci de.
Mais ça a été un véritable
m'avoir
plaisir.
Invité dans votre émission.
On aura sûrement l'occasion de se revoir, déjà toutes les deux. Mais on aura sûrement l'occasion de se revoir pour d'autres projets parce que je suppose que ce projet-là va faire naître d'autres choses.
Ben oui, j'espère bien.
Mais c'est comme ça que ça fonctionne, les artistes,
oui,
que je sache.
Absolument.
Et de fil en aiguille.
N'est-ce pas ?
On finit
par. On peut
par...
le dire.
C'est ça. On finit par avancer dans la vie et c'est en savoir plus.
C'est un tel beau, ce fil, il est porteur de tellement de sens.
Merci beaucoup en tout cas, merci à vous Christine, merci à Léonie
merci.
Qui a assuré la
merci
réalisation
beaucoup.
De cette émission. Je crois que nous sommes dans les temps, la réalisatrice sera satisfaite. Je l'embrasse, je vous souhaite à tous une bonne semaine et à la prochaine fois dans un 10-10 ou dans une autre émission. Au revoir.
Radio FM Plus.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.